Et merci à ceux qui nous soutiennent via Patreon ou par des dons, ou éventuellement par des dons en bière. Guillaume Aubert, un Toulousain, Benjamin, Johan Bonneau, Arnaud Van Meusen, Winke. Merci Arnaud, Fendoel, Clément Dumas, Mickaël Le Bourris, El Pouillou, Geoffroy et La Canâtre. Bonjour les joueurs et bonjour les joueuses. Nous sommes en septembre 2014 et vous écoutez un épisode de Proxy Jeux. La dernière partie du numéro 59 où on va vous parler de jeux sur écran, sur plateau et un peu de deux. Bonjour Etienne.
Bonjour.
Etienne Miller est encore avec
nous. Je suis toujours
en quatrième semaine.
Quatre
bravo.
Semaines.
Quatre semaines d'affilée, c'est voilà. Bien à venir si souvent.
Bonjour Jérémy, comment
vas-tu? Bonjour Olivier.
Alors la semaine dernière, on a enregistré notre épisode le plus court de toute notre vie de podcasteur. 5 minutes 50, c'était incroyable. Et aujourd'hui, donc on a des chroniques. Tu as enregistré une chronique sur Five Tribes avec Bruno, on l'écoutera tout à
Bruno,
l'heure.
Ouais.
Sous le buzz avec Finca, et je vous propose de commencer avec la chronique de Yannibus.
Mais c'est quoi ce jeu ?
Sous le buzz, par Yannibus.
Salut les joueuses, salut les joueurs, salut la Proxy Team. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Aujourd'hui, on va rester un petit peu en vacances. Vous allez mettre votre patnama pour vous protéger du soleil. Nous allons jouer les agriculteurs à Majorque. Finca est sorti chez Hansim Gluck en 2009. Il se joue de 2 à 4 joueurs. Les auteurs sont Ralph Surline 2, à qui on doit également un jeu assez sympa qui s'appelle Pergamon, et Wolfgang Sancter. Finca est illustré par Franz Vominkel. Dans Finca, vous allez devoir récolter des fruits pour pouvoir livrer des commandes, commandes rapportant des points nécessaires à la victoire finale. Dans un premier temps, vous placez vos ouvriers agricoles, en fonction du nombre de joueurs, sur les pales d'un grand moulin à vent, chaque pale disposant d'un symbole de fruits. Une fois ce premier placement effectué, vous allez à votre tour choisir d'effectuer une action parmi trois. Soit déplacer un ouvrier agricole sur le moulin pour obtenir de nouveaux fruits, soit effectuer une livraison, c'est-à-dire livrer de 1 à 6 fruits en fonction de la commande, ou alors, en dernière action, utiliser l'une de vos 4 actions bonus, qui sont en finalité des récoltes ou des mouvements d'ouvriers améliorés. Lorsque toutes les commandes d'une région sont satisfaites, un bonus supplémentaire est donné aux joueurs ayant une majorité de fruits d'un type demandé par la région. Le jeu prend fin lorsque 4, 5 ou 6 régions, en fonction du nombre de joueurs, ont été vidées de leurs commandes. Et devinez quoi ? Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Mon avis sur le jeu est d'une simplicité quasi enfantine. Finca ne nécessite pas plus d'explications qu'un aventurier du rail, ce qui en fait un excellent jeu d'introduction pour les nouveaux joueurs ou pour jouer en famille. Vous pouvez d'ailleurs, si vous trouvez que la règle des tuiles bonus est un peu compliquée, les retirer facilement pour encore simplifier les choses. Le fait de devoir gérer ces livraisons et surtout de faire les livraisons avant qu'elles ne vous passent sous le nez, tout en gardant un œil sur les majorités, sur les régions qui pourraient se fermer durant la partie, amène tout de même un challenge intéressant pour les joueurs un peu plus aguerris. Finca est assez difficile à trouver, mais sans texte sur les éléments du jeu, sautez dessus si vous le voyez, même si c'est dans une édition étrangère. Encore une fois, comme dans Proxy Jeux il y a Proxy, j'attire votre attention sur une boutique sur Paris qui propose tous les mardis des soirées jeux dans lesquelles vous pourrez croiser certains membres de la Proxy Team et surtout d'autres joueurs motivés. C'est la boutique Robin des Jeux, elle se situe à la sortie du métro Avron sur la ligne 2. C'est juste à côté de Nation. Suivez-nous sur Twitter pour connaître les autres horaires et lieux des événements ludiques. En attendant de se croiser en vrai dans une soirée, dans un festival, peut-être à Essen, ou numériquement sur le chat, sur les forums et Twitter et compagnie, jouez bien.
Finca, tu y as joué toi ?
Non, j'ai pas joué moi. J'étais très intéressé par sa chronique du coup pour écouter, pour voir ce que valait le jeu. Mm-hmm. Comme toujours en fait, il sait choisir les jeux qui justement ont vraiment passé sous le buzz et qui donnent envie après d'écouter. Le seul petit problème, c'est que Finca, pour une fois, il est difficilement trouvable. On peut le trouver sur Ocaseo, mais c'est tout. Peut-être à Essen. Ah ouais, mais cet épisode sera diffusé après Essen. Eh bien, tant pis. Il faut être Finca. J'ai maintenant monté le temps. Mais...
Quand tu pourrais en trouver à Essen et les revendre assez cher.
Ah ouais, ouais. Bon, bah, allez, voilà, si vous en trouvez plein sur Ocaseo juste après Essen, c'est qu'on les a ramenés.
Ok. Est-ce que avant de parler de Five Tribes, elle rentrait dans le dur du jeu de société. Moi, je voulais vous parler d'Ingress. Je vais le présenter et je pense que c'est intéressant que qu'Étienne soit là parce que en fait, Ingress, tu connais pas du tout toi. Jamais.
Je connais le pitch, hein, forcément difficile avec toi de passer à travers.
Comment ça? C'est parce que depuis 5 semaines, oui, j'ai mon téléphone à la main.
Oui. Tu te promènes tel un zombie en tournant autour d'un poteau comme ça.
C'est ça.
Il a monté ses propres portails.
Donc ce jeu est. Alors c'est quand même un jeu. Ah. C'est un jeu qu'on a sur iOS et Android. iOS depuis très peu de temps et puis Android depuis plus longtemps. C'est le Niantic Project, c'est un projet Google, quelque chose un peu expérimental qui a vu le jour il y a quelques années, je crois que ça fait 2 ans que ça existe. Et moi je connais ça depuis 5 semaines, on m'a dit tiens, est-ce que tu connais ça? Je l'ai installé et puis je me suis laissé avoir parce que Ingress c'est un MMORPG. Il faut savoir que c'est vraiment massivement multijoueur, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui y jouent et il y a des millions de personnes qui y jouent. Ça ne s'arrête pas comme d'autres jeux parce que quand toi t'es pas en train de jouer, t'as quelqu'un qui va déambuler dans la rue et qui va jouer à ta place. Donc c'est très mouvant, c'est très changeant. Le but du jeu, c'est une conquête de territoire. Il y a les verts, il y a les bleus. On se fout du pitch en fait. Il faut juste savoir que les verts sont moins nombreux que les bleus. Donc après il y a un camp qui est un peu déséquilibré. Et l'idée, c'est que tu vas prendre des portails. Une statue peut être un portail, un square peut être un portail, une église peut être un portail. Et l'idée, c'est de contrôler. Et après, d'arriver à faire des liaisons entre les portails. Et les liaisons vont te permettre de créer des champs. Tu gagnes des points en mettant des résonateurs autour de tes portails. Donc le portail peut être de 3 états, soit il est de ta couleur, soit il est de blanc, donc il est neutre, soit il est de la couleur ennemie. S'il est blanc, tu peux le prendre et tu peux mettre des résonateurs autour et il va t'appartenir. S'il est de la couleur ennemie, t'as des bombes qui permettent de casser les résonateurs, et donc c'est une lutte de territoire comme ça. C'est très prenant parce que, comme dans tous les MMORPG, au début tu vas très vite, c'est-à-dire que tu découvres, t'as la possibilité de pouvoir agir sur ton environnement, c'est-à-dire que physiquement tu vas dans la rue et puis tu regardes, c'est de la réalité augmentée et tu dis ah c'est bleu, moi j'aime pas les bleus parce que je suis vert, hein. C'est pas, vous le savez si vous me suivez sur Twitter.
Stéphanois à Lyon.
Pardon ?
Non, Stéphanois.
Non. et l'idée c'est que on est très très vite pris parce que l'envie de changer un peu l'environnement qui est autour de toi et t'as très vite cette envie de dire je veux gagner du terrain sur l'autre. Après au bout d'un moment tu te rends compte que c'est une lutte sans fin et que tu vas de toute façon passer ton temps à faire quelque chose que quelqu'un va te défaire derrière, mais ça te fait marcher, ça te fait sortir, ce que les autres MMORPG ne font pas. Ça te fait rencontrer des gens, parce que parfois, t'es devant un monument comme ça, puis tu le passes en vert, et puis tu te dis, mais attends, il est vert, il est pas blanc. Il est pas bleu. Et puis tu te tournes comme ça, t'as un autre mec, un autre geek qui est sur son téléphone, et qui tape sur son truc, et tu te dis, ah, salut, ça va. Donc il y a une interaction que t'as pas dans les autres MMORPG. C'est un vrai jeu parce que t'as des vraies stratégies en fait. T'as des stratégies de groupe, t'as une tactique personnelle où tu vas monter de niveau, et plus tu ne peux pas, quand t'es bas de niveau, attaquer les. Ça va être très très long d'attaquer les portails de haut niveau. Les portails de haut niveau, c'est une restriction, c'est-à-dire que tu peux pas dire mettre des résonateurs niveau 8 tout seul, il faut que ce soit. Il faut être avec les autres. Et puis, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que tu récoltes, tu farmes comme dans un MMORPG en venant sur les portails, tu les hacks et tu as des résonateurs, tu as aussi des bombes, mais aussi des boucliers, tu as des choses comme ça. Enfin, ça, voilà. Sans rentrer dans les détails, tu farmes, tu marches et tu vas vers d'autres portails, tu essaies de les descendre. Voilà. Ça te prend un temps énorme. Alors, le premier problème, c'est que c'est ça.
Boucle.
C'est que quand tu es dans la campagne, t'as pas beaucoup de portails, t'as pas beaucoup de matière, donc c'est pas très intéressant. Moi, je suis entre Lyon et Paris et je suis entre deux.
T'as pas le temps de placer des nouveaux portails entre Lyon et Paris
dans non, non, dans le train, ça marche pas.
De cellules.
Trop vite, ça va trop vite. Puis il faut de la 3G aussi parce que sinon. Le deuxième problème, c'est que c'est très dangereux. En outre le fait que tu peux te faire casser la gueule par un bleu qui dit arrête.
Oui, est-ce que ça déborde sur le physique?
Bah, ça peut.
Physique.
C'est ça qui est, c'est marrant. Bah, c'est un truc qui est rigolo parce que en fait, pour la petite histoire, j'ai découvert la synagogue de Villeurbanne parce que j'habite à Villeurbanne. Grâce à Ingres.
Et pourtant, t'en es pas très loin.
Non, elle est derrière vers la mairie, mais c'est pas un lieu de passage. C'est une rue qui est adjacente, enfin qui est perpendiculaire. Tu vas pas là-bas.
Sauf quand le portail est bleu.
Sauf quand t'es juif, mais moi je suis pas juif et j'ai pas et voilà. Il y avait un portail, mais voilà, je suis allé quoi. Et en fait, ça, tu peux le prendre de cette façon-là à découvrir plein de trucs autour de toi.
Il y a un podomètre dedans parce que ce serait curieux de savoir comment t'as fait le kilomètre pour cette application quoi.
Oui, oui. Alors t'as des, alors c'est un peu. T'as tout plein de choses, c'est-à-dire que
comme le Pokémon Walker,
t'as un inventaire et puis moi il me dit que j'ai marché 126 km.
Pas mal.
Je le crois.
Il triche,
en fait.
Hein. Je pense qu'il y a des voitures, non?
Non.
Ah ouais.
Pas loin. Mais non, je marche beaucoup en fait. Et puis t'as aussi des objectifs. En nombre de portails, ouais, des achievements en termes de portails, en termes de fields, de champs que tu vas créer, etc. etc.
Alors moi, étant sur téléphone Apple, je vais l'installer, mais je connais un peu parce que je travaille avec des gens. Enfin, on travaille sur un projet de géolocalisé, donc voilà.
Non, Eason, tu vas te battre.
Voilà, donc je vais essayer Eason. Voilà. On m'a expliqué qu'il y avait un système aussi que tu devais rencontrer tes acolytes à un moment donné pour un système de clés. Enfin voilà, t'étais obligé de rencontrer les gens physiquement. C'est ça qui était semblait assez intéressant. Moi,
j'ai dit stratégie et tactique. En fait, t'as une tactique personnelle. Enfin, t'as un objectif personnel, c'est de monter de niveau.
Ouais.
Quand tu vas créer des portails, quand tu vas les lier, quand tu vas te créer des champs, tu vas gagner des points d'expérience. Et au final, tu vas monter de... Là, j'ai 1 200 000 points. Le premier palier, c'est peut-être 20 000 points, tu vois. Et en fait, ça se double à chaque fois. Jusqu'au niveau 8, tu as des paliers d'expérience. Et après niveau 8, ça se complique un peu parce qu'on te demande de conserver un point plus longtemps.
Ouais, c'est ça.
En fait, les achievements, en fait, tu peux les avoir soit en bronze, soit en argent, soit en gold, soit machin. Et ça va jouer, ça va rentrer en compte. Au départ, ils avaient juste imaginé 8 niveaux. Et maintenant, ils rajoutent, c'est des choses qu'ils ont rajoutées. Et après,
qu'en Afrique, il y a quand même peu de portails. Hein.
Ah bah non, c'est clair. Alors il y a une carte. Hein,
tu vois que les bleus gagnent largement.
Ouais.
T'as pas choisi le bon camp.
Tu vas, mais non, justement. Tu me connais pas. T'as une carte, ça doit être une Grèce / Intel ou un truc comme ça, où tu peux voir les cartes. Et quand je dis qu'il y a aussi après un niveau qui est un peu plus stratégique, c'est que la façon de faire les champs, donc tu dois avoir des clés. Donc, quand tu hack un portail, bah, tu récupères une clé en général.
Oui, c'est ça.
Tu récupères du matériel, tu récupères un peu d'expérience chez les bleus, et plus de matériel dans ta couleur personnelle. Et puis après, pour faire des portails de haut niveau, t'es obligé d'avoir 8 personnes de niveau 8 pour faire un portail 8. Donc déjà, ça te permet de rencontrer des gens. Pour nettoyer une zone, enfin, t'as pas un inventaire qui est extensible. Donc en général, tu fais des raids exactement comme dans un MMORPG. Si t'es dans ma couleur, je peux te laisser des résonateurs de ton niveau pour que tu puisses toi commencer à les utiliser et puis monter rapidement en niveau. Donc
ce qui est marrant, c'est que c'est graphiquement, c'est totalement abstrait en fait. Hein. T'es pas chez Blizzard quoi. Toi, t'as pas de domaine. T'es pas dans l'heroic fantasy ou l'imaginaire classique. C'est marrant
Google,
ça. Ouais, ouais.
Non. Et alors en fait, après, alors c'est comme une carte radar ou.
C'est pour les geeks, il y a besoin d'avoir des trucs élevés en fait.
Sauf que après, t'as quand même ton portail. Ton portail qui peut être bah, t'as une photo de
avec ta photo
voilà.
Wow,
non, ça peut pas être un être humain, mais voilà, et tu peux les soumettre.
Donc là je perds ma vie quoi, c'est ça, je viens de l'installer là.
Non, moi ça m'a duré 5 semaines. Bah, aujourd'hui j'ai passé niveau 8 et j'arrête.
D'accord.
Ah bon,
je sais,
pourquoi t'avais dit niveau 8 j'arrête?
Bah c'est ça en fait.
Pourtant,
si tu veux,
passé niveau 7 quand on était à Strasbourg, donc ça fait 3 semaines.
Ouais, mais t'as autant de points entre le temps où tu arrives du 1 au 7 que du 7 au 8.
C'est pareil. Et j'ai combien de niveaux?
Bah, il y en a 16 en fait maintenant, mais après,
oh,
c'est les achievements qui sont.
Non, sur la courbe logarithmique, là, t'es à peine au début, moi j'avais.
Non, mais c'est ça le truc, c'est que. c'est que le jeu est super intéressant parce que t'as des tutos sur YouTube pour te dire comment optimiser la façon de faire des champs et de lier les.
C'est toujours problème, quand un jeu est disséqué.
Non mais c'est super. Mais ça prouve que tu peux. Enfin, c'est intelligent dans le sens où quand tu te promènes, attention à en traversant les routes. Tu fais attention.
Ah, si c'est un bleu au volant.
Parce que généralement, ton GPS, il te localise, mais à 5 mètres près, et des fois, tu te rapproches, tu sais, ou tu t'éloignes, et là, tu te retrouves sur la route. Mais si tu veux, t'as vraiment. Il faut repasser au même endroit il faut se promener, prendre possession des clés, après faire tes différentes liaisons, et si c'est vraiment pas con. Et la façon dont tu fais les choses. Tu peux la faire soit un peu random et puis tu fais plaisir quand même. Soit tu la fais en disant je vais le faire de façon très optimisée et c'est vraiment un
trop,
truc. Et bien après c'est comme le MMORPG. Il faudrait que j'ai une guilde, il faudrait que je parte en raid et ça c'est pas possible.
C'est pas compatible là-bas.
Donc Ingress, il faut l'installer, il faut l'essayer.
Je suis ton truc, je suis quoi? Bleu ou vert?
Moi je te propose vert.
Tu dépends à qui tu veux être copain.
Les illuminés. Oh bah c'est bien ça. Ouais. Cherche à exploiter. Ouais, allez, la matière exotique, ça me plaît. Confirmé. Voilà, bah je suis vert.
Ouais,
voilà.
T'es le campeur.
Voilà.
Il faut reconquérir la map maintenant.
Et
ça, ils sont quelle couleur?
Ils sont toutes les couleurs, c'est un truc.
Ouais,
il y a même, si tu veux, il y a des rencontres Ingress, il y a des gens qui ont réussi à faire des champs entre différents pays et différents continents. Parce qu'en fait, quand tu as la clé, tu ne peux lier deux portails que si tu as la clé des deux portails, en fait. Donc après, il y a des gens qui sont partis, ils ont envoyé la clé à quelqu'un et qui est allé de l'autre côté de la Manche, et puis après, ils ont créé le portail, quoi. Et je trouve que, donc moi, ça, 5 semaines, ça va bien. J'ai beaucoup marché, n'est-ce pas?
126 km, c'est pas mal.
Tu perds énormément de temps, en fait. C'est-à-dire que...
Si tu fais des détours.
Ben, en fait, si tu veux, je mets 40 minutes pour rentrer chez moi à pied. Avec Ingress, plutôt 1h30.
C'est un jeu qui pourrait être sponsorisé par Total, tu prends ta voiture.
Mais justement,
tu t'arrêtes au feu, c'est pas grave, tu fais un bougeon.
Je suis en scooter, ça devrait peut-être marcher doucement.
Ouais, il faudra que tu t'arrêtes.
30 km/h, en fait. C'est comme si je courais. Je
fais un truc. Après, il faut que tu t'arrêtes. Alors, il y a quelques tips, je vais te les donner. Quand tu mets des résonateurs, il faut que tu sois au plus loin de ton portail.
C'est plus chiant à défaire.
Parce que, effectivement, sinon, ils sont tous groupés. Tu peux aussi, il y a des petits jeux, tu vois, t'aimais bien les glyphes, tu nous en as parlé dans ton premier jeu.
Ouais,
il y a un système de glyphes quand tu vas hacker les portails. Alors c'est bête parce qu'on n'a pas à proximité de chez moi, donc voilà, ça va être tu découvriras ça.
À la part Dieu, je pense que tu vas en trouver tout à l'heure.
Quand tu vas hacker les portails, tu laisses ton doigt appuyé sur hack et tu vas en fait avoir les glyphes qui vont apparaître. Et si tu reproduis le même glyphe, tu vas avoir des bonus. De la même façon, quand tu vas attaquer un portail, quand tu appuies sur Fire, il y a un petit jeu où en fait tu as une cible qui va s'éloigner, se rapprocher, tu vas pouvoir gagner 20% de plus sur les dégâts que tu vas faire.
Et là, il y a un tutoriel ou là ? Parce que là,
oui,
je suis vraiment lancé dans le...
Tout à fait.
Oui, bon, je regarderai.
Tout à fait, tu vas dans Ops.
Ouais.
Et tu vas dans Training.
Training, ah d'accord. Okay,
et là, tu voilà. Donc après, okay. tu vas
faire... Ah oui, faire ce contact.
Si
voilà,
si jamais c'est un bon tuto.
Eh ben, on se retrouve à Essen. On verra si vous me voyez en train de... Tel un zombie marche. Ben, je vais peut-être faire un pari Essen à pied. Enfin, un truc comme ça.
Voilà, ouais, carrément.
Mais c'est bien...
Alors, maintenant, je pense que je te dépose pas à la gare ce soir.
Je rentre à pied ce soir.
C'est bien aussi de rester dans... Tu vois, de rester dans une zone assez... compact, enfin c'est pas la peine de marcher des kilomètres, mais rester dans une zone et puis aller faire des va-et-vient ou aller quelque part après revenir, parce que justement tu vas construire quelque chose et tu vas avoir des possibilités de liaison des portails qui sont plus importants.
En fait c'est des triangulations, c'est ça, ce que j'ai vu, tu crées des triangles et petit à petit ça se...
C'est ça.
S'étend ton terrain comme
c'est ça.
Ça.
Ouais. C'est ça. Et Merlin il est déçu parce que t'es pas bleu.
Parce que quoi?
Parce qu'il est pas bleu.
Ah bah moi
il vient de réagir.
Je viens de vert, voilà, ouais. Je suis vert.
Donc voilà, Ingress, si vous ne connaissez pas, maintenant c'est sur iOS, c'est très intéressant. Bon après, c'est je le redis, hein, pour moi c'est un Moporg, mais c'est quelque chose que... à la fois le fait d'avoir de la réalité augmentée, le fait de pouvoir voir les autres joueurs, ce qui est un truc incroyable en fait, que tu vois jamais les autres joueurs quand tu joues à Meuporg. Et puis le fait de pouvoir marcher, d'être à l'extérieur et puis de pouvoir utiliser ta ville comme terrain de jeu, je trouve que c'est extraordinaire. Donc après, c'est complètement mercantile, c'est Google qui veut récupérer nos données pour en faire je ne sais quoi, et mais bon, ça m'éclatait, je trouve que c'est
ça valait bien le coup de donner tes données.
Voilà, j'ai pas fait trop long.
C'est 10 minutes.
En tout cas, je viens de charger l'application, je suis inscrit, voilà, voilà. T'as fait ton job et je suis vert.
T'es vert.
Désolé les bleus, voilà. Et on peut faire de pseudo, non, je pense. Ah non, ouais, il se lie à son compte. J'ai vu, il te lie à ton compte Google. Donc,
ouais, mais tu peux avoir un autre compte.
Ouais.
Faut être un peu schizo, mais.
Ouais, voilà.
Non, c'est pas bien, mais tu verras. En plus, il paraît.
Bleu, vert. Comme ça, tu level en même temps. Tu casses et tu refais en même temps, là.
Il paraît que l'ambiance est beaucoup plus détendue chez les verts et et que les verts sont plus.
Ça se voit, ils perdent. Hein. Il me faut de la rigueur pour gagner.
Justement. On va revenir au jeu de société un peu plus classique.
C'est juste, pour troller, justement.
Oui, tu me disais, c'est pas un jeu de société, mais attends, on a parlé de FTL, ouais. On peut parler de Ingress.
Allez, je suis en 10 minutes la suite parce que.
Eh bien, on va écouter Bruno Catala nous parler de Five Tribes, si t'en penses.
Allez, c'est parti.
Voilà.
17 minutes.
Bonjour Bruno, je me permets de t'appeler par Skype aujourd'hui pour que tu me parles un petit peu de Five Tribes. On change un peu la formule proxy jeu, on veut maintenant que les auteurs présentent un petit peu leur jeu, leur bébé. On s'est dit que c'est une autre façon de présenter en fait le jeu. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu l'origine, comment est-ce que l'idée t'est venue, on va dire commencer comme ça.
Alors déjà, ce jeu, il est né en réaction à un mouvement, enfin à toute une catégorie de jeux, qui sont les jeux de placement d'ouvriers. C'est-à-dire que moi, j'aime les jeux de placement d'ouvriers, j'en ai pratiqué quelques-uns, c'est Kélus qui a ouvert la voie. Et puis, en ce moment, il y a quand même beaucoup de ça, et j'en suis arrivé à un stade où même si ça reste intéressant, évidemment, je trouve pas du renouveau vraiment là-dedans. Donc moi, je me suis dit, et en fait, au lieu de faire un jeu de placement d'ouvriers, et si je faisais un jeu de déplacement d'ouvriers? C'est-à-dire que l'idée première du jeu, c'est exactement ça, c'est les ouvriers, donc les meeple, sont sur le plateau de jeu depuis le départ, depuis le setup initial, ils appartiennent à tout le monde, et c'est la façon dont on va les déplacer et les enlever du plateau qui va générer les actions auxquelles on va pouvoir avoir droit sur son tour. Donc ça, c'est le principe de base. Comme forcément, et donc la mécanique de déplacement, c'est une mécanique de type awele, donc pour ceux qui connaissent ce genre de choses, donc on va égrener les meeple un à un dans les cases, avec des petites règles très simples que je ne vais pas expliquer là parce que c'est pas l'objet. Et ensuite, sur la case d'arrivée finale, on va faire l'action d'une des cinq tribus, donc d'une des cinq couleurs de meeple, avec une intensité d'autant plus forte qu'on va en enlever beaucoup. Et donc sur la base d'un système finalement très simple, j'ai construit une petite mécanique qui donne pas mal de choix possibles avec beaucoup d'évolution du plateau en cours de jeu, ce qui implique justement de pouvoir renégocier l'ordre du tour à chaque début de tour, ce qui est vraiment important.
Et là, tu as réintroduit un système d'enchères un petit peu qu'on voyait plus depuis justement les jeux de pose d'ouvriers.
Alors c'est un système d'enchères, mais comment dire? Ce système d'enchères, j'y ai forcément beaucoup pensé, parce que les enchères, j'adore ça, mais les enchères, c'est réservé aux experts.
Eh oui, c'est ça.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'un système d'enchères, aussi simple soit-il, si autour de la table, il y a une personne qui mise de façon inconsidérée, c'est-à-dire qui n'attribue pas la même valeur moyenne aux choses, en fait, le jeu, il peut tomber à l'eau, entre guillemets, complètement. Donc, ayant conscience de ça, moi, j'ai créé un petit système d'enchères bornées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'interdis, d'une certaine façon, au travers de cette petite piste, j'interdis aux joueurs de dépenser, de miser de façon inconsidérée.
Les seuils sont déjà élevés. Hein,
le seuil est élevé, mais il est nécessaire. Mais donc, malgré tout, comme en plus ce que tu dépenses, c'est des points de victoire, ça interdit ça interdit qu'un joueur, en misant de façon inconsidérée, à y faire gagner quelqu'un d'autre, puisque les enchères, on ne les paye pas aux autres, on les paye à la banque, de toute façon.
Ouais.
Et en fait, on décide de perdre des points de victoire pour jouer premier. Donc, c'est autre chose.
D'accord. Alors, au niveau des mécanismes, on retrouve un petit peu cette notion de déplacement, d'action qui se résolve sur les tuiles quand quand on amène les meeples dessus, on retrouve un peu les idées qu'il y a dans Longhorn.
Et pas que dans Longhorn, parce que tu pourrais aussi parler du fantôme de l'opéra.
Ah ben voilà, oui exactement.
Mais oui, parce que si tu veux, c'est à un moment donné, on pourrait dire ça que c'est une sorte de signature, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une sorte de réflexion globale que j'engage dans un domaine du jeu, des jeux de société, et par rapport à une problématique qui m'intéresse, je peux décliner différentes façons de la traiter. Et en fait, la façon dont c'est traité dans le Fantôme de l'Opéra, la façon dont c'est traité dans Longhorn, la façon dont c'est traité dans Five Tribes sont réellement différentes. Néanmoins, oui, il y a une filiation, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Fantôme de l'Opéra et dans Longhorn, il n'y a absolument pas de mécanique de déplacement de type Awele. Ça, non. C'est spécifique à Five Tribes. Par contre, qu'après la capacité de déplacement d'un élément donné du jeu soit dépendant du nombre d'éléments dans une case de départ, alors ça, c'est un point commun aux trois jeux. Mais alors, par contre, en dehors de ça, le feeling de jeu, la sensation de jeu qu'on a est quand même assez différente. Mais c'est vrai que c'est la même idée de base qui m'a conduit à faire deux jeux, un petit jeu à deux qui s'appelle Longhorn et un jeu beaucoup plus conséquent pour deux à quatre joueurs qui s'appelle Five Tribes.
Et Five Tribes, Image d'ailleurs, tu l'as adapté à deux en permettant de jouer deux fois plus de tours. Ça change la physionomie du jeu par rapport au jeu à quatre.
Bah nécessairement, puisque de toute façon, mais ça c'est vrai dans tous les jeux de façon générale, dans tous les jeux de stratégie, plus on va aller vers le nombre de joueurs maximal, et moins le jeu va être, entre guillemets, contrôlable. Enfin, on va forcément y perdre du contrôle, alors que quand on va aller vers le nombre de joueurs minimal, c'est-à-dire deux joueurs, là, on en arrive avec un jeu où on est quasiment en contrôle total.
Oui.
Nécessairement, en sensation de jeu, ça donne pas tout à fait la même chose. Par contre, pour moi, c'est très clair, le jeu à deux dans Five Tribes n'est pas un sous-jeu. C'est pas parce que c'est cool de dire que ça se joue à deux. Non. Ça se joue vraiment à deux, et c'est plutôt taquin.
Ouais, et du coup, je m'en suis même posé la question si à la base c'était pas plutôt pour deux, et après, entre guillemets, étoffé pour quatre joueurs, tu vois.
Le jeu, il a été construit comme un jeu avant tout multijoueur, et sur lequel ensuite j'ai trouvé cette astuce de deux jetons de mise pour pouvoir quand même le jouer à deux, mais pour autant en ayant la satisfaction que ça soit un vrai jeu à deux, quoi.
Ouais, le nombre de choix est quand même est bien présent. Comment le projet est arrivé chez Days of Wonder?
Bah, le projet est arrivé chez Days of Wonder parce que quand j'ai eu terminé le développement du jeu, j'avais conscience que c'était un jeu qui nécessitait beaucoup de matériel, donc qui serait relativement coûteux à produire, et j'avais envie à la fois d'avoir du beau matériel et puis d'avoir un éditeur qui avait les reins suffisamment solides pour pouvoir produire en quantité suffisante pour que d'une part le jeu atteigne pas 80€, et deuxièmement, pour pas qu'on fasse un premier tirage de 3000 qui soit épuisé assez vite et qu'ensuite on attende 6 mois avant d'avoir à nouveau un retirage et ainsi de suite. Donc du coup, très clairement, Days of Wonder a été ma première cible. C'était chez eux que je souhaitais en priorité, sur ce jeu-là, être édité. Parce que, en général, j'ouvre, c'est-à-dire que je présente un jeu en parallèle à plusieurs éditeurs, là non, je l'aurais présenté à eux en priorité. Et en ayant conscience aussi que c'était un jeu qui rentrait pas forcément dans leur ligne éditoriale.
Ouais, c'était la remarque que j'allais faire, ouais.
Je leur ai présenté le jeu en leur disant, bah voilà, j'ai quelque chose que je pense qu'il faut que vous regardiez, et en même temps, je pense que c'est pas pour vous.
Comme ça, moi, tu as un petit côté frustration. Et tu...
Non, mais c'était même pas pour faire du plan. C'était vraiment, c'était pas je pense que c'est pas pour vous, je crains que ça ne soit pas pour vous, parce que moi, ouais, j'ai envie de le faire avec vous, mais en même temps, j'ai conscience que ça correspond pas à la ligne éditoriale, usuelle. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est d'arriver au bon endroit au bon moment, puisque à ce moment-là, j'ai eu donc Eric Hautement, qui était le patron de Days of Wonder à ce moment-là, et qui m'a dit, tu arrives juste au moment où nous, on est en train de se dire que plutôt que de faire un jeu sympa pour famille, ça serait bien si on pouvait faire un très bon jeu pour gamers.
Ah, donc.
Et donc, du coup, ils ont estimé que le jeu rentrait dans ce créneau-là, et puis on est parti sur cette aventure, quoi.
Et ça se passait quand à peu près? Parce qu'on sait que les jeux, des fois, ça met 2 ans, 3 ans avant de sortir.
Alors, le jeu, j'ai commencé à travailler dessus. Ma toute première idée, donc d'ailleurs en même temps que Longhorn, puisque c'est donc la même idée, c'était, que je te dise pas de bêtises, là on est en 2014, c'était Noël 2012. J'ai terminé le développement du jeu en février 2012. parce qu'en fait, comme il est sorti d'un bloc, celui-là, il est pour un jeu de cette taille-là, c'est allé très très vite. À part des fine-tuning finaux, de dire plus un moins un point là, moins un point là, vraiment tout le système de jeu dans son calage et tout ça, ça passe à mi moins de 2 mois. Et ils m'ont dit oui en fin avril, début mai 2012.
Ah, c'est très vite.
Oui, et ben pour la signature, oui. Par contre, après, pour la réalisation, elle, elle a commencé un an plus tard.
Ouais. Et la thématisation, elle vient de toi ou elle vient d'eux ?
Elle vient des deux, c'est-à-dire qu'à la base, moi, mon jeu s'appelait Héliopolis. Et en fait, c'était la même chose en Égypte antique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de génie, c'était les dieux. C'est-à-dire que les différents génies, c'était Isis, Osiris, enfin, etc., etc. Les sages, c'était des grands prêtres. Les esclaves, c'était des esclaves. Enfin, voilà, les marchands, c'était des marchands. Enfin, bon, les vizirs, c'était simplement des nobles, en fait. Donc, voilà, c'était une thématique Égypte antique. Donc, tout qui fonctionnait très bien et qui plaisait tout à fait à Days, hein, en tant que tel. Ouais. Sauf que, là, à nouveau, ils m'ont dit la chose suivante, et à juste titre, ils nous disent, voilà, nous, on fait un jeu par an. Donc, au maximum. Donc il n'y a pas tellement de raisons qu'on refasse un jeu sur une thématique qu'on a déjà traitée. Et ils ont eu fait Cléopâtre,
ouais,
dont j'étais déjà un des auteurs, et qui n'a pas forcément donné lieu, si tu veux, au succès qu'ils auraient souhaité. C'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel on a quand même fait 20 000 exemplaires, mais pour des vendeurs, 20 000 exemplaires, c'est un échec. Donc,
ouais, je sais, bah, ils peuvent pas réussir, tu peux pas réussir tous les
jours. Non, mais voilà. Mais, donc, ouais, si tu veux, dans la mesure où il y avait une déception de ce côté-là, qu'en plus c'était en tout cas un des mêmes auteurs et qu'en plus de toute façon ils souhaitent changer de thématique, bah, il fallait trouver autre chose. Et donc là, on a réfléchi ensemble et cette thématique Mille et Une Nuits nous a tous séduits à la fois pour son contexte un peu entre guillemets féerique. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui est connoté à une réalité quelconque, donc c'est parfait. Ça permet d'introduire de la couleur, un univers quand même assez bigarré, et puis les génies qui permettent d'expliquer les trucs à caractère entre guillemets magique. Ce qu'il y a de bien dans les jeux, c'est qu'avec la magie, c'est formidable parce qu'on peut tout expliquer. Donc
c'est pas mal. Ouais. Et justement, du coup, les génies. Enfin, je croyais, tu vois, j'avais une question. Je me demandais si il y avait un rapport avec les génies qu'on trouve dans Sultania de Charles Chevalier, puisque tu as collaboré aussi. Avec lui sur d'autres jeux, et tu vois, je me demandais s'il y avait de la...
Non, non, absolument pas, non, non. D'abord, Sultania, à la base, moi, quand j'ai... Je crois que la première fois... Enfin, Sultania, c'est un jeu que j'avais vu en proto il y a fort longtemps, mais à l'époque, c'était pas du tout cette thématique qui plus
est. Ah ouais, c'est pareil, ça a été retravaillé, ah ouais, entre-temps. Donc finalement, les Mille et Une Nuits sont mis en force pour 2014 chez les éditeurs.
Bah, en fait, tu vois bien, 2014, ouais, en fait, 2012, enfin, tu vois, c'est... Après, c'est des concours de circonstances. C'est assez rigolo, d'ailleurs. On pourrait faire le parallèle avec... Il y a eu une période où il y avait des jeux de vikings. Après, il y a eu des jeux de zombies. Enfin, tu étais bien passé pour le savoir. Enfin, etc., etc. Donc, il y a des vagues comme ça, mais c'est pas... Il n'y a jamais de concertation. Ça correspond, je pense, à des envies du moment. Et comment est-ce qu'elles naissent ? Alors ça, c'est un grand mystère.
Ouais, tout le monde évolue. Tout le monde fait le même calcul et tout le monde arrive.
C'est même pas un calcul, là.
Enfin, pas un calcul, mais réflexion.
Parce que bon, si on savait calculer ce qui va marcher ou pas, on s'en porterait tous beaucoup mieux, mais... Là, c'était vraiment une envie, si tu veux. Puis même, au niveau illustration, ça permettait de se faire plaisir, quoi, sur les génies, etc.
Ouais, non, mais c'est un jeu qui est très beau, en plus, très agréable à manipuler.
Merci.
La fabrication des offrandeurs, c'est clair que ça met de la qualité.
Alors là, surtout qu'en plus, enfin moi, ça me touche aussi, ça me fait plaisir, c'est une fabrication européenne.
Ouais, j'ai regardé.
C'est un jeu complètement réalisé en Allemagne chez Ludofat. Donc là, il y a rien qui vient d'ailleurs.
Ah ouais, puisqu'il n'y a pas de plastique et ouais. Effectivement, oui, Ludo des Offenders choisit toujours Ludofat pour sa production et ça se sent, hein, vraiment la qualité au toucher là.
Okay.
Est-ce que du coup, j'ai fini un peu les questions. Est-ce que j'ai fait 2 parties à 2, donc c'est encore pas énorme, tu vois. Je découvre encore des trucs. Au fil des parties, on se dit, oh, mais je peux encore faire ça de différent. Enfin, j'avais pas vu telle ou telle façon de jouer. C'est un jeu qui, ouais, c'est un jeu qui cache, enfin, ça cache bien son jeu, justement.
Bah, c'est toujours que c'est un jeu qui, en fait, a des règles qui sont finalement assez simples.
Ouais.
Je trouve, par rapport. Mais alors, par contre, il y a une vraie courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que elles sont suffisamment simples pour que tu puisses profiter de ta première partie. Et puis, en même temps, tu te dises, ah ouais, mais en fait, je peux faire ça.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, d'accord. Ok. Donc c'est bon. Pour moi, c'est plutôt un gage de rejouabilité. Donc voilà. Ce qu'il faut pas, c'est que les joueurs passent à côté du jeu sur leur première partie, parce que ça, c'est dramatique, ça. Mais je parle du jeu, je parle pas de celui-là. Je parle d'un jeu de façon générale.
Ah ouais, je comprends.
Tu sais bien qu'aujourd'hui, les joueurs, ils donnent une chance au jeu, et s'ils ont pas tout compris à la première partie, ils le rangent et on passe à autre chose. Donc il faut quand même que le goût de reviens-y soit là de façon suffisante pour que le jeu reste pas sur une étagère. Voilà, donc je pense, enfin j'espère en tout cas que Five Tribes contient ça, et c'est vrai que c'est un jeu dont je suis réellement fier. Et tu voudrais quoi, des conseils de jeu, c'est ça?
Ouais, je sais pas si tu veux donner deux, trois petites astuces. Ouais.
Alors déjà, c'est un jeu de rentabilité. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est combien je paye pour gagner quoi. Donc ça, c'est quand même assez essentiel, donc il faut quand même vraiment avoir cette notion-là. En gros, j'estime que pour qu'un coup soit intéressant sur ton tour, il faut qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, donc ça, il faut que tu espères gagner 8 à 10 points par tour. En moyenne. Sinon, si en moyenne t'es en dessous, c'est quasiment certain que tu vas perdre. Alors après, tout ça se pondère par rapport aux situations. Le plateau étant variable à chaque partie, la répartition des meeples étant variable à chaque partie, tout ça est pas à prendre au pied de la lettre. Mais globalement, c'est une valeur guide qu'on peut garder en tête pour essayer d'optimiser sa façon de jouer. Ensuite, c'est clair qu'il faut savoir lire le plateau. Et il faut savoir quand jouer en tête et quand éventuellement ne pas jouer en tête par rapport aux situations qu'il y a sur le plateau. Il faut particulièrement surveiller. Alors il y a des choses que ça, les joueurs vont voir facilement. Au début, on joue en essayant d'optimiser son coup. C'est bien. Mais dans un deuxième temps, il faut jouer en optimisant ce qu'on fait tout en pourrissant les cases des adversaires. Parce que laisser... Enfin, faire un coup juteux en laissant quelque chose de plus juteux au joueur suivant, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc ça veut dire que la façon dont on va semer les pions sur le plateau est vraiment primordiale, puisque c'est là où on va ouvrir ou fermer des positions aux autres. Donc, petit conseil pour les débutants, évitez en semant de laisser un meeple tout seul sur une case, parce que forcément ça devient une case cible qui va pouvoir être conquise dans le tour suivant, enfin par le joueur suivant. Évitez de laisser une case dans laquelle il n'y a que des rouges plus un seul meeple d'une autre couleur, parce que ça veut dire que ça aussi c'est une case qui va pouvoir être conquise immédiatement par le biais des assassins, les rouges étant des assassins. Ça veut dire éviter des accumulations de meeples d'une seule couleur dans une case. Parce que si je fais l'action verte avec une intensité de 4, enfin quelle que soit la couleur d'ailleurs, avec une intensité forte, c'est quand même un gros avantage. Donc éviter les accumulations de couleurs. Ensuite, il faut aussi surveiller, comme le lait sur le feu, les cases où il y a 5 meeples ou plus. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que les joueurs ne voient pas sur une première partie en général, c'est les cases qui permettent de faire des boucles.
Ouais, c'est ça, on voit pas la première partie.
Et en faisant des boucles, il y a moyen de faire fort. Alors, de toute façon, tout ça, moi j'ai déjà écrit un guide stratégique depuis longtemps en fait. Et ce guide stratégique, je le publierai dans quelques temps sur Trickfrag probablement.
D'accord, ben voilà. T'as raison, il faut laisser un peu le temps que les gens découvrent aussi.
Bah oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, à un moment donné, un jeu, c'est quand même intéressant d'avoir le temps de l'apprivoiser soi-même. Mais voilà, mais malgré tout, après, pour aider ceux qui se sentent un peu en difficulté parce qu'ils voient passer des scores auxquels ils n'arrivent pas, ben, ça peut être intéressant aussi de leur donner quelques pistes.
Ok. Eh ben, merci, Bono.
Bah avec plaisir.
J'aime bien.
T'as vu? Bah ça change. Ça change cette façon de
présenter. On se marre parce qu'en fait, pour expliquer, on en repasse pas parce que sinon notre podcast. Mais nous les avons écoutés.
On les a écoutés.
J'ai beaucoup aimé.
Toi tu l'auras dans un mois. Voilà. Mais c'était très intéressant.
J'ai vu comme ça se passait.
C'est pertinent,
voilà.
C'est détendu, c'est sympa.
Le mois prochain, Abyss avec Charles Chevalier, c'est moi qui m'y colle. J'espère que ce sera aussi intéressant.
Voilà, juste Five Tribes dans 2 minutes, non, ou 1 minute, en rien.
Bah, on en vient d'en parler 17, vous venez d'en parler 17 oui. minutes, mais tu peux.
Juste mon avis perso, c'est oui, un jeu qui est tout très, qui malgré son, sa thématisation, c'est un jeu qui reste abstrait, mais qui est très très intéressant, qu'il soit à 2 joueurs ou à 4. Il est pas du tout de la même manière. Par contre, il y a plein de façons de scorer les points. Bruno, il en parle dans l'interview. La rejouabilité, elle est très forte parce qu'on va pas découvrir tout de suite les façons de marquer les points. Il va falloir rejouer plusieurs fois. Après, il y a le problème que, il y a le paralysis analysis qui peut arriver. À un moment, on peut, moi, sur des parties, sur les derniers tours, il y a plus beaucoup de bons coups à jouer. Donc, le temps de repérer ce qui est le meilleur pour toi et c'est pas des gros scores, ben, ça prend un peu de temps. Donc après, ou bien tu fais comme moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'en fiches, tu joues pas non plus que pour les points, tu joues aussi pour jouer. Donc bah, de toute façon, tu prends un coup que t'as vu, et puis tant pis si c'est pas le meilleur, parce qu'il faut jouer et il faut avancer la partie pour passer à autre chose. Voilà, mais c'est un jeu, et en plus, qui est vraiment différent entre 2 et 4 joueurs. C'est pour ça que je pose la question à Bruno, c'est-à-dire si à la base, il l'a taillé pour 2, parce que j'ai cette impression-là au départ.
Ben, moi, c'est l'impression qu'il me donne, Bruno, c'est qu'il il pense jeu à 2 joueurs. Quoi.
Et en fait, non. Mais par contre, c'est un jeu qui reste très mécanique. Hein. Ça, c'est évident. Il n'y aura pas une immersion vis-à-vis du thème. Mais c'est des jeux de Bruno, c'est sans doute celui qui lui me plaît le plus, en fait, qui me parle le plus. Qui donne le plus envie d'y revenir parce que t'as cette frustration au bout des premières parties de dire ah mais je pouvais faire ça aussi et du coup tu vas rejouer différemment la fois d'après et comme ça pendant plusieurs parties.
Étienne,
oui,
ton jeu du moment.
Alors attends, je vais en ce
World
moment.
World of View, on joue beaucoup à World of View.
Oui, ouais, ça on y joue. voilà, on le montre, voilà, jusqu'à l'overdose. Alors sur iOS, alors là sur tablette, en gros, je joue à Star Realms que j'ai découvert à la Gen Con, mm-hmm. parce qu'en fait ils étaient à côté du stand de Yellow, et ils jouaient au jeu de cartes là, et ils ont sorti une version qui d'ailleurs qui est pas terrible en ergonomie là, je parle, hein, pas le jeu. C'est un deck building assez simple en fait, mm-hmm. qui est assez simple, même trop simple au bout d'un moment. Il est rigolo quoi, mais enfin rigolo, c'est un deck building. Voilà, mais c'est il est un peu simple. Ah ben bah, tu l'as là, voilà. D'accord.
Tout à fait. Carte.
Voilà. Par contre, ils l'ont sorti sur Mac, sur tout support, hein, vraiment. Donc j'y ai joué pas mal, mais maintenant en fait, là j'attends des extensions. Je sais pas où ils en sont. Je sais que c'était un Kickstarter au départ.
Ouais.
Et il est assez light. Et
c'est partie des jeux où l'application te donne vraiment envie d'aller acheter. Moi j'ai acheté la version carte. La version carte, elle est à 17€. Elle est que chez Philibert en France pour l'instant. Starim, je vous conseille vraiment au moins de télécharger l'application. Moi, je l'ai démonté la boîte. Parce que c'est une boîte en carton léger qui tient pas et je l'ai mise dans une deckbox et ça tient parfait.
Elle est que chez Philibert?
Elle est en import pour l'instant, donc peu de boutiques font de l'import. Après, peut-être vos boutiques locales, mais en ligne, en tout cas, c'est quasiment.
Très bien, Philibert. Très bien.
Ouais, donc le jeu il est bien fait.
T'as joué la version complète en mode campagne, en mode difficile? Parce que là, ça commence à faire mal.
Par contre, c'est marrant, ouais, ils ont fait comme Hearthstone, c'est-à-dire qu'ils ont créé des scénarios à partir de ce mécanisme, c'est-à-dire qu'ils font des niveaux en fait, comme dans le jeu vidéo en fait. C'est tout d'un coup t'as une mécanique de jeu, deck building, et après il te dit ben maintenant, je sais plus dans la campagne, tu commences avec 30 points de moins, tu commences qu'avec tel type de vaisseau, voilà. Donc ils te mettent des contraintes et qui sont assez marrantes parce que, enfin quand je dis marrantes, c'est qu'elles t'apprennent à jouer différemment. C'est ça qui est intéressant. T'as des sortes d'achievements.
Oui c'est ça.
Et c'est vraiment de l'entraînement en fait. Ça t'amène à réfléchir différemment. Donc ça c'est super intéressant. Après je dis nous. Après par contre c'est intéressant parce que j'y ai joué justement avec Farid en revenant des États-Unis assez rapidement parce que le jeu est exactement le même. Hein,
c'est addictif, moi je trouve.
Voilà. Ce jeu. Par contre, c'est rapide. Oui. C'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est pas une partie. Et puis,
c'est pas World of You.
non, je pense à autre chose. Il y a d'autres jeux un peu plus longs, quoi. Voilà. Aussi, voilà, des jeux assez longs. Et puis, nous on attend. Bon, on joue pas mal. Je disais là, rencontre cosmique régulièrement pour nous, quand on veut que ça se passe mal autour de l'atelier.
Un jeu actuel.
Et alors un jeu actuel. ouais, 76. Ouais, mais bon, c'est ça qui est bien dans les jeux de société, quoi. Tu vois, tu peux trouver un jeu génial, toi, qui date de 50 ans.
Multiple édition, mais toujours aussi.
Ouais,
aussi
toujours bien. Quoi. Et un jeu actuel. Alors attends. On a joué à King of Tokyo, mais c'est pas récent, voilà, beaucoup, parce qu'on attendait King of New York et j'ai pas pu en avoir aux États-Unis, c'est normal, ils en avaient pas beaucoup.
Ouais, ouais.
J'allais pas voler tout ça, quoi.
Il fallait aller piquer le stock.
Non, j'étais dans le stock, hein, pour te dire. Mon truc Wi-Fi était dans le stock, j'étais entouré de boîtes de King of New York.
Mais tu pouvais pas en profiter.
Voilà.
En plus, tu en récupérais deux, t'en revendais une 120$, quoi.
Voilà, et on jouait, c'est pas récent, pareil, Android Netrunner, quoi. Donc, toi, on est dans en jeu classique. Et j'ai joué beaucoup cet été avec mes fils. Alors je me rappelle pas, tu sais, c'est les échecs japonaises là. Ils ont sorti
le Yogi.
Une version.
Ouais. Et t'as joué à Let's Catch the Lion, Yokai no Mori.
Ouais. Et ouais, honnêtement, super. Enfin, honnêtement,
Ah, t'es quelqu'un de bien quand même. Hein.
Tu sais que.
Non, mais vraiment, non, mais l'objet est beau. Oui, et tu vois, mon petit. Donc, PSA, je joue avec Elio, il a 5 ans.
Ouais.
Et on joue sur la partie 9 cases là. Ouais. Il joue vraiment bien. quand je dis bien, c'est-à-dire qu'il va te dire d'avance sa tactique, c'est ça qui est drôle, c'est que, il dit oui, tu vas faire ça, mais il joue vraiment. Et puis le Vim, 11 ans, il me bat. Alors moi, je suis pas bon à ce genre de jeu, mais il me bat, mais vraiment quoi. C'est-à-dire que, puis avec les cousins, ça a beaucoup tourné. Et pareil, au niveau ergonomie, toi, t'as juste les petits points qui disent tu peux te déplacer. Donc en gros, t'as pas besoin de savoir lire, toi, un enfant de 5 ans, il a compris.
Ça, là,
voilà. Et honnêtement, ça, ça, c'était une très belle découverte. Je l'ai acheté par hasard. Toi, dans la, à Montrouge, il y a une petite boutique de jeux de société. Je suis passé devant, j'ai vu la boîte, j'ai dit, ah, elles sont marrantes, les illustrations, c'est joli.
C'est Nayad. Hein,
voilà, le mec qui me dit, bah, c'est marrant. Enfin, le mec me dit, non, c'est un bon jeu. Je fais, bon, bah, en plus, c'est pas très cher. Enfin, toi, je suis gentil, moi.
C'est joli, c'est bien.
Ouais, c'est joli. J'ai dit, bon, bah, je le prends, quoi. Voilà, non, mais en gros, ça s'est fait comme ça, quoi. Tu vois, voilà, c'était, voilà, ça, c'était une très bonne surprise cet été.
Ça, c'est un jeu qu'on a poussé, nous.
Oui.
C'est un jeu qui est, si tu remontes dans l'historique Proxy Jeux, on a fait passer la boîte dans les mains de Ferti.
C'est toi qui me souviens, Alison, quelqu'un m'amène devant ce grand tableau magnétique et me dit, regarde, c'est super.
Avec des animaux, avec la version japonaise, enfantine. Et je l'ai découvert via sa version iOS, encore une fois.
Et c'est super.
Tu vois. Donc, le numérique te pousse à aller vers le.
En fait, il te. Soit c'est gratuit, soit c'est vraiment pas cher.
Ouais, c'était pas
et
cher.
Puis c'est facile d'accès. T'as vu ce que j'ai fait? Là, j'ai téléchargé l'application en une seconde, tu m'en parles. Et après, si ça me plaît vraiment, bon, une Grèce en jeu de société, je suis pas sûr, mais pourquoi pas la boîte. Voilà, Bruno Catala, voilà, si tu nous entends, voilà, essaye de faire. C'est un challenge. Fais une version d'Ingress de Google en jeu de plateau. Mais non, mais voilà, ça c'est intéressant. C'est une bonne articulation entre les deux. Et ça permet d'accéder à des jeux que tu aurais jamais essayé.
Exactement,
comme ça.
Ouais.
Et pour finir, Jérémy, tu voulais nous parler de quoi?
Non, c'est tout.
En 10 minutes, t'as dit.
Ben, je voulais parler Star Realms, on en a parlé vite fait. Moi, je trouve que c'est un jeu de deck building impeccable, très simple, affrontement direct, ce qu'on n'avait pas dans les jeux de deck building type Dominion, type Thunderstone, etc. Moi, j'aime qu'on aille taper sur l'adversaire. Le jeu, il est bien fait parce que tu as 4 camps alliés avec lesquels... qui ont des effets différents, et donc il va falloir que tu construises au mieux par rapport à ce qui est au milieu. On retrouve le côté Ascension, c'est un des auteurs d'Ascension, avec 5 cartes disponibles. Donc tu peux acheter que parmi ces cartes-là, donc il faut quand même composer avec ça, des fois ça correspond pas avec ta stratégie, à toi de choisir, et le but c'est, mais il faut quand même taper l'adversaire, t'as 50 points de vie, c'est beaucoup, des fois au début tu vas commencer à bien le taper, et puis l'autre, c'est pas grave, il se construit, lui il se met des bases, des trucs qui vont le protéger, et à la fin c'est lui qui va te rouler dessus, quoi. T'as fini la première partie, t'as qu'une envie, c'est tu reprends les cartes, tu rebats les cartes et tu réenchaînes, quoi.
Ouais, parce qu'il est très agressif, c'est ça qui manque, ouais, en général, c'est vraiment je te tape dessus, quoi.
Bon, Barbarossa est très agressif aussi, mais.
Alors, le seul truc qui est raté.
C'est pas la même esthétique.
Le seul truc qui est raté dans la version papier, c'est que les cartes de points, c'est des cartes. T'as des cartes 20, 10, 5. Je veux dire, on a eu vite fait de prendre les D10 à côté pour marquer qu'on avait 50 points. Joueur Magic oblige, mais.
Qu'est-ce que tu penses de parce qu'on parlait d'illégal avec Marilyn tout à l'heure, puisqu'on a un petit peu de temps. Parce que là, on a fait une première partie un petit peu longue et là on a un petit peu de temps.
Tu rigoles? C'est 19h30, on part dans.
Non, mais t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu penses pas politiquement correct dans le jeu société?
Ah, alors, heureusement qu'il n'y a pas de micro à volumique, parce qu'on a des idées des fois en game design et tout. Tiens, si on faisait ça. Non, ce qui est intéressant dans le jeu en général, même le jeu vidéo, tu vois, les gens pensent que dès qu'il y a jeu, c'est un peu pour les enfants. Donc, non, c'est que non, mais les mécaniques ludiques. Et c'est d'autant plus violent quand tu commences à mettre, par exemple, David m'a fait jouer plus ou moins un jeu qui s'appelle, c'est un truc de GMT. C'est très, très curieux. Labyrinthe.
Voilà, ah oui, jeu War bien on lourd. Terror.
Voilà. Et ben, en fait, c'est très, très bizarre parce que, en fait, c'est un jeu. Donc, en gros, ça commence le 12 septembre 2001. Ouais. Voilà. Et en gros, les cartes que l'on va jouer, donc c'est de la géopolitique, sont des vraies cartes. C'est-à-dire que vous allez jouer vraiment Bush,
l'événement.
Des vrais événements. Et ça, c'est très perturbant. Là, c'est pas politiquement
comme
pas correct.
Ouais, non, mais
en tout cas, tout d'un coup, tu fais rentrer dans un. Toi, t'es plus dans un univers de fantasy ou de poésie ou de trucs. Tout d'un coup, t'as vraiment George Bush qui arrive, t'as Jacques Chirac et t'as des attentats qui arrivent et des choses que tu as vues à la télé il y a quelques années que t'as vécu. Enfin, pas personnellement, mais en tout cas que tu les as vues à la télé.
Ah bah
GMT fait des jeux historiques.
Voilà. Oui, mais là, comme c'est très proche. Toi, oui, c'est pas les batailles napoléoniennes et compagnie, tu vois, même la Deuxième Guerre mondiale.
Ou même Toilette Struggle, c'est la guerre froide, mais on n'a pas le même rapport.
Voilà. Mais là, c'est un des premiers jeux, enfin, un jeu qui m'a. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors, le jeu, c'est un peu lourd. Enfin, j'ai joué qu'une fois, et encore. Mais je trouve que c'est super intéressant, ce glissement ou cette confrontation entre deux imaginaires, on va dire, différents. Et ça te fait penser les choses différemment. Parce que là, tout d'un coup, tu peux être du côté, entre guillemets, des méchants. Et tout d'un coup, tu te retrouves à déclarer la charia, je sais plus où, tu sais, t'as des cartes, déclarer la charia en Égypte et tout, et ça te pousse à faire des choses que tu veux pas faire. Mais la mécanique ludique te pousse à le faire et ça te force à avoir une vision totalement différente, puisque là tu vas jouer le camp toi de Ben Laden, en gros, hein, c'est Bush contre Ben Laden, et tu acceptes de jouer ce jeu. Donc je trouve ça super intéressant, et même en plus que ludique, c'est-à-dire même en manière d'apprendre, alors même plus que l'histoire, c'est de tout d'un coup tu arrives à avoir plusieurs visions d'un même événement. Donc ça, moi je trouve ça très intéressant. Après les trucs à la Barbarossa, voilà les trucs. Alors là, après, c'est soit c'est de la grosse plaisanterie, entre guillemets, de mauvais goût ou pas, hein, voilà. Voilà. Mais je trouve que d'arriver à mettre des choses, là, dans le monde de Yo, nous, on est dans un monde fantastique, mais nous, on a pensé à pas mal de jeux comme ça. Par exemple, j'ai fait un jeu. Alors, je peux le dire, il est pas fini du tout, mais c'était un jeu où c'est une sorte de jeu d'échecs, un peu plus, j'allais dire mieux. Plus fun. Mieux que l'échec, ça va être dur. Le mec est pas prétentieux.
Non,
pas mieux, mais c'est plutôt un jeu de dames d'ailleurs. Très simple. Mécanique super simple. Sauf que ce que tu joues, c'est tes vrais amis Facebook. Donc, en gros, chaque pion, en gros, tu sais qui c'est. Donc en gros, j'ai vraiment le pion Facebook et il y a des amis. Et quand tu les perds, tu les perds. C'est-à-dire que ça te détruit tes amis sur Facebook.
C'est les Dames Legacy.
Exactement, voilà. Et ça, c'est un... Alors, le Facebook veut pas, curieusement, mais on peut tricher, on peut dupliquer le... Toi, par exemple, tes contacts, t'es sur une tablette, hein. Ça joue sur iPad, hein. C'est un proto, hein, juste. Mais ça fait réagir les gens, surtout les étudiants, en disant... Qu'est-ce qui est très important pour vous actuellement dans votre téléphone?
Et qui est important? Et qui c'est le pion? Et qui c'est la reine? Et qui c'est le roi?
Exactement, c'est ça. Et tout d'un coup, tu vas... Et comme avec Facebook, on connaît en gros plus ou moins, hein, plus ou moins, mais si t'es jeune et célibataire, donc en gros, les jeunes et célibataires, tu les mets devant, tu vois? C'est parce qu'eux, ils vont pas... Alors que mais quand t'as un mec comme moi, qui a plus de 40 ans... en fait, t'avais un pourcentage, quand tu décides d'attaquer quelqu'un, comme un jeu de dames, il y a un pourcentage de chance qu'il déserte. Bah, un mec de 40 ans qui a deux enfants, il va déserter vraiment beaucoup plus facilement qu'un jeune de 20 ans qui est là, ouais, on va y aller. Donc en gros, on s'amusait en reprenant les profils Facebook, mais en montrant que Facebook, toi, en plus, en disant voilà, on te détruit vraiment. C'est-à-dire que quand tu joues, toi, par exemple, aux dames ou aux échecs, tu dois sacrifier à un moment donné quelqu'un pour en gagner deux. Un truc classique. Ben là, tu dis, je sacrifie Olivier, Jérémy ou Frédéric ou Tristan, je sais pas. Et surtout, on envoie au mail au mec que t'as sacrifié, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, tu dis, voilà. Donc en gros, c'est des mécanismes comme ça. Alors, ce jeu n'est pas fait, c'est un prototype, mais là, c'est pas politiquement incorrect, mais c'est juste des jeux qui vont montrer des mécanismes, toi, qui vont essayer de montrer, on va dire, j'ai employé le terme de design critique, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est du design, de la conception critique, qui vont critiquer un système, mais toujours en gardant un vrai jeu, hein, c'est-à-dire que c'est un vrai jeu, je vais te gagner, sauf que l'enjeu, là, c'est pas comme ça des petits pions, c'est chaque pion a sa personnalité. Et en plus, c'est vraiment quelqu'un à toi que tu connais. Voilà. Et tu décides. Après, on voulait vendre des packs de Kevin, enfin voilà, des trucs. Que... voilà, parce qu'après, tu pouvais acheter en DLC. Voilà. Ça, c'est des idées, on l'a pas fait et tout. Mais ça, c'est des idées sur lesquelles mes étudiants, par exemple, travaillent. Ça, c'est intéressant avec les étudiants où là, il n'y a pas de. C'est ça qui est intéressant, de vision à court terme commercial. Tu te dis, voilà, c'est une expérimentation, on est libre, allez-y joyeusement. Et j'ai des étudiants qui ont fait des jeux vraiment super drôles. Quand je dis drôle, c'est on a fait un jeu vidéo, c'est uniquement sa chaise. On a mis des capteurs sur une chaise. Un peu dur à expliquer comme ça, mais en fait, suivant la position sur laquelle, quand tu es au bureau, quand tu regardes quelqu'un, tu sais si tu peux le déranger ou pas, suivant la position qu'il a sur une chaise.
Ah oui,
tu
vois, quand il dorme.
Mais quand tu es un peu en arrière, quand tu es un peu à droite, tu sais que tu peux le déranger, alors que quand tu vois que la personne est un peu en avant sur son écran, est en train de travailler.
Traditionnelles.
Ouais. Et ben en fait, on le sait, la chaise peut le savoir. Et donc, on avait inventé un jeu comme ça où tu pouvais envoyer des sortes de POC, tu vois, des disais, tac, toi, tu peux jouer avec moi et tu pouvais reproduire le mouvement d'autres, voilà, des sortes de. En disant, voilà, le jeu. Alors, c'est même pas un jeu vidéo là. Le jeu, c'est la chaise. Tu te débrouilles. Voilà. Tu fais des mécanismes comme ça. Voilà. Donc là, c'était plutôt sur la position de travail. Et le but du jeu, c'était de réduire la productivité nationale et internationale. Voilà. C'était un complot communiste. Voilà.
C'est bien.
Pour améliorer. Justement, pour casser l'entreprise. En tout cas, je trouve que les jeux. Bah, tu sais, il y a un jeu de. C'est la femme de Romero, un des mecs qui a créé Doom, qui est une game designer, je ne sais plus comment elle s'appelle, une américaine, et qui a fait un jeu avec des petits trains. D'accord ? C'est un jeu de société. Sauf qu'à la fin, tu t'aperçois que le train, il doit amener.
On en a parlé.
Voilà.
Elle a fait une conférence.
Et ça, c'est intéressant parce que je crois pas que ce soit un vrai jeu. Hein. C'est une sorte de prototype et tout. Mais c'est des choses intéressantes.
Là, c'est du serious gaming.
Serious gaming avec une dimension politique. Ouais. Voilà. C'est pas.
On en avait parlé justement avec les discussions politiquement correctes.
Voilà. Et on peut faire. Enfin, on peut rentrer dans des trucs vraiment. De toute façon, déjà, honnêtement, les katanes et tout ce qui est sur les colons. Enfin, toi, si tu y penses, par exemple, j'ai joué un super jeu, c'est Endeavor. Je ne sais pas si vous y avez joué.
Ouais,
honnêtement, super. Eh ben, moi, la première fois, j'étais gêné d'aller coloniser l'Afrique. D'ailleurs, pour tout te dire, je suis resté en Europe et j'ai fait une tactique un peu bizarre. En fait, au début, c'est lentement, mais je me suis armé et je tapais sur dès qu'il ramenait.
Ouais, ouais.
Voilà, et je l'ai tapé dessus, je suis arrivé deuxième alors que je connaissais pas le jeu. Mais tu vois, c'est que je me suis dit, mais c'est marrant. Alors après, c'est un mécanique de jeu, mais
c'est tombé parce que le billet de Bruno Fiduti, le dernier qu'il a posté, c'est décoloniser Catan. Bah, et c'est là, et c'est justement en partie
de
dire ça. Quoi.
Je pense que c'est pas politiquement correct actuellement, Catan, ou des jeux comme ça. Tu vois,
à Porto Rico, ou les
voilà, Porto Rico. Voilà, non, mais exactement. Voilà.
Bah, après, donc, bon, politiquement correct.
Non, mais c'est ça. Non, mais dans le thème, tu pourrais englober actuellement, ou tu sais, c'est quand même photo lycée, jusqu'à. Choses comme ça, tu pourrais dire bah, c'est des mécaniques qui ont existé, qui existent toujours dans d'autres trucs. Mais j'ai vu un jeu il y a 2 ans, mais je ne suis pas arrivé à le retrouver à Essen, qui expliquait les mécaniques de la bourse et des banques. Je n'arrive pas à le retrouver. C'était pas un Serious Gaming, c'était un vrai jeu de plateau, mais vraiment un ovni. Hein. Tu vois, c'était un truc peut-être amateur.
Mais, ouais, ta pizza.
Ouais, et qui expliquait en gros la crise de 2008.
Ouais.
Et en gros, c'était un jeu qui te mettait à la place des banquiers. Voilà. Et donc, ça, c'était un vrai jeu. Hein. Alors après, bon, il n'a pas trouvé d'éditeur, diffuseur. Voilà, c'était un peu compliqué, mais je trouve que c'est intéressant.
Non, il s'est fait assassiner par HSBC.
Hein? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est bizarre qu'on l'ait jamais retrouvé. Oui, c'est normal.
Tout le financement du jeu était chez Lehman Brothers.
Voilà. Mais je pense qu'il y a deux choses dans le politiquement correct. Soit il y a des jeux qui se veulent critiques et qui te font poser des questions, justement. Soit après, il y a les jeux où c'est juste l'esthétique et toi, tu mets des filles, avec XY.
Alors, c'est
Barbarossa.
Ouais, voilà, Barbarossa.
C'est bien, ça fait la transition.
Où la mécanique est totalement décorrélée. Tu vois, la mécanique et le thème du jeu est décorrélé de l'esthétique ou de la. Tu pourrais mettre des camions, des frites, n'importe quoi.
Ou des fourmis. Ou des photos de. Mais ça se vend mieux avec des filles.
Oui, non, mais voilà, c'est ça. Ça c'est.
Ou sans culotte. Ou ça se vend encore mieux quand t'as non pas. Bon, bah écoute, on va faire un dossier sur Barbarossa parce qu'on a beaucoup à en dire.
Il est bien le jeu ?
Le jeu est bien.
Ouais.
Le jeu est. C'est un deck building en fait. Tu prends des positions, t'as plusieurs.
Tout est enregistré. Tout est enregistré.
T'inquiète pas, on va faire une heure. Tu prends des. C'est un peu long parce qu'en fin de compte, ça retrace bien en fait les mécanismes où t'as des blindés qui sont puissants mais que tu vas perdre avec toute la logistique, et après avec des mécanismes de deck building de j'ai de l'or. Je peux faire des achats et je peux poser des cartes. Ça change rien. Sauf qu'après, tu vas prendre des villes petit à petit et tu vas arriver jusqu'à Moscou. Et Moscou te rapporte beaucoup de points. Et c'est à Moscou, généralement, tu y as.
Mais c'est totalement décorrélé. C'est ça, t'as des jeunes filles en petite culotte.
La première version, c'est une version avec des photos noir et blanc du conflit. Conflit.
Donc c'est du pur opportunisme.
C'est tout à fait. C'est la conclusion de mon dossier.
Voilà, c'est pas intéressant.
Tu pourras écouter le dossier qu'on va faire avec Alexis. Etienne, merci beaucoup d'avoir partagé cet après-midi. C'est dommage que ce soit pas 2h du matin. Mais toi, on va se revoir tout à l'heure. Tu vas revenir et puis on va faire le
dessus. Ah, tu veux que je revienne finalement ?
Bah ouais, tant qu'à faire. On va te laisser sur place et on fait
un Skype. Ok.
Non, mais.
Très bien. Voilà, donc il pourrait rentrer à 9h ce soir, c'est bon.
Merci beaucoup. Bah, tu diras à madame que tu vas avoir un peu de retard. Merci, merci beaucoup. On se reverra avec plaisir à Etienne. Et puis moi je vais béquer parce que j'ai essayé
ce matin en fait qu'on fasse la journée non-stop.
On
a tellement de choses à dire que après on avait de quoi faire la scène de l'année.
Alors dernière chose dont on n'a pas parlé, on fait plein de choses chez Proxy Jeux et certains de la Proxy Team ont voulu se lancer dans l'explication de règles vidéo et on va vous mettre sais pas où mais sur YouTube
sur
la présentation
YouTube,
et Death Match Fish.
Et puis je mettrai la vidéo dans le billet.
Voilà.
De Pingouin. Oui, That's My Fish.
Justement. C'est trop bien ça.
Ouais, mais c'est pareil, c'est un jeu qui se prête parfaitement aux tablettes, alors qu'en version plateau, même s'il n'est pas cher, c'est long à mettre en place. Alors sur un iPad, tu fais une partie dans le même temps que tu as mis en place le jeu en version plateau.
Il ne manque plus que les pingouins en figurine.
Oui, il faudrait que les pingouins soient placés sur l'iPad.
Bah on peut, nous, avec nos technos.
Eh oui, justement, c'est pour ça.
Mais il faudrait que le plateau soit un peu grand, quand même. Enfin,
ça tient.
Non,
ça tient, parce que le plateau est visible en
une. Je veux dire, le socle de la figurine qui doit être un peu.
Si tu veux que les figurines soient reconnues, il faut que les figurines aient au moins 30-35 mm de diamètre.
Il va falloir retravailler le concept.
Ouais, ou Apple va nous faire un méga grosse tablette après l'iPhone 6.
Il y a un iPad Pro qui arrive de 12 pouces.
Ok, donc la vidéo sur YouTube, une référence sur les billets. Vous allez retrouver toutes dans les notes de ce podcast tout ce dont on a parlé. N'oubliez pas Marilyn sur Ludovox. Merci pour son intervention. Merci à tous ceux qui ont fait ce podcast parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous avez beaucoup travaillé et c'est super. Dites-nous ce que vous pensez de la 5e saison. Dites-nous ce que vous pensez de ces coupes dans le podcast, sur le site web, sur Twitter, sur Facebook, donc proxyjeux, podcast.proxyjeux, voilà. À très bientôt, la semaine prochaine ça sera le numéro 60, et d'ici là...
Il y aura les débriefs Essen avant, en plus, que vous aurez eu, et sans parler des dossiers.
Bref, c'est mieux et moins, mais ça sort toujours plus et mieux, voilà. À très bientôt, et en attendant, je vais bien.